me parlait de lui, il me faisait des propositions. Ensuite, il a commencé à m'envoyer des mails pornographiques sur ma boîte mail professionnelle.
Moi, j'avais pas conscience du tout, hein, déjà, que ça s'appelait harcèlement sexuel. C'est pas du tout comme ça que je l'aurais intitulé. Je me faisais beaucoup embêter par des hommes.
L'aspect de sexualité n'est parfois qu'un aspect totalement secondaire. Il s'agit de mettre des personnes à une place inférieure.
Il y a une certaine honte quelque part, et puis j'avais du mal à reconnaître que j'étais une victime, que je contrôlais rien.
Depuis le 4 mai dernier, le harcèlement sexuel n'existe plus dans le code pénal. Le Conseil constitutionnel a jugé la loi sur le harcèlement trop floue. Cela faisait des années que les associations féministes dénonçaient les insuffisances de la loi. Mais l'ironie dans cette histoire, c'est que c'est un homme, député de droite, ancien ministre condamné en appel pour harcèlement sexuel, qui est à l'origine de cette abrogation. Il avait déposé une question prioritaire de constitutionnalité et n'est donc plus sous le coup d'aucune poursuite. Et plus généralement, ce sont l'ensemble des procédures en cours qui sont, depuis le 4 mai, remises en cause. Il y a donc désormais un vide juridique. Les associations féministes se sont donc mobilisées, manifestations, courriers au président de la République et même dépôt de plainte devant le Conseil constitutionnel. Et cette mobilisation semble avoir porté ses fruits puisque le nouveau gouvernement s'est engagé à présenter rapidement un projet de loi. Les ministres de la Justice et des Droits des Femmes ont planché ensemble sur un texte que Christine Taubira présentera mercredi prochain en Conseil des ministres. Un texte qui sera ensuite soumis aux parlementaires. Et une chose est sûre, ils vont avoir du pain sur la planche, car définir précisément le harcèlement sexuel ne sera pas chose simple, tout comme punir le harcèlement et prévenir le harcèlement. Toutes ces questions, nous allons les aborder jusqu'à 19h. Harcèlement sexuel, un délit sans loi, un magazine de la rédaction signé Aurélie Kiefer. Avec nous en direct en studio pour écouter et commenter ce magazine, l'avocat Maud Beckers. Bonjour.
Bonjour.
Vous défendez actuellement plusieurs victimes de harcèlement sexuel et à vos côtés Denis Salas. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes magistrat, docteur en droit. Vous êtes l'auteur de La justice dévoyée, critique des utopies sécuritaires aux éditions Les Arènes. Et enfin, Aurélie Kiefer, bonjour.
Bonsoir.
Vous avez réalisé les reportages que nous allons entendre, des reportages qui vont nous aider à saisir les réalités que recouvre le terme harcèlement sexuel.
Oui, il m'a été difficile de collecter des témoignages. Pour les victimes, il n'est pas évident de se replonger une fois de plus dans des souvenirs désagréables. Elles ont parfois peur que cela nuise à une procédure en cours, sans oublier le sentiment de honte qui persiste. Elles n'ont pas envie d'être vues comme des victimes. J'ai tout de même pu rencontrer deux jeunes femmes, mais leur anonymat sera respecté et la voix de l'une d'elles a été modifiée.
Et c'est donc Jessica que nous allons entendre pour commencer.
Jessica, fonctionnaire dans la fonction publique territoriale, elle travaillait auprès d'un chef de police municipale qui l'a trouvé très à son goût.
Il a commencé par me convaincre en fait que la hiérarchie en général et que mes collègues de la police municipale ne m'aimaient pas et que en fait lui était un peu le seul à m'aimer, à vouloir me protéger, qu'il fallait que je lui fasse confiance, etc. Donc il a essayé de créer un climat d'isolement dans lequel en fait il serait le seul en fait repère protecteur et bienveillant autour de moi.
Et vous avez été sensible à ça au début ?
Oui, ben en fait on se rend pas vraiment compte si vous voulez, donc ça se fait très progressivement. Et étant donné que je voyais vraiment pas la mauvaise intention qu'il pouvait y avoir derrière, je l'ai tout simplement cru.
Et donc, à partir de ce moment-là, il a commencé à en abuser.
Bon, alors en parallèle, il me posait des questions sur ma vie personnelle. Il commençait lui aussi beaucoup à se confier sur la sienne. Et il a cherché à savoir s'il y avait une faille dans mon couple. Et donc, au fur et à mesure, il a commencé donc, à essayer de se créer un personnage qui aurait été susceptible de me plaire. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Il se vantait énormément. Et il m'a fait des propositions assez rapidement. En fait, j'ai vraiment senti le déclic le jour où il m'a convoqué dans son bureau et il m'a montré une vidéo. Enfin, en fait, j'étais assise en face de lui. Il a tourné son écran et il m'a dit « Je vais te montrer une vidéo pour prouver que j'ai confiance en toi ». Et j'ai vu, ça a duré quelques secondes, parce que j'ai arrêté de regarder la vidéo, une vidéo dans laquelle on voyait sa compagne faire une fellation à quelqu'un qui, je suppose, était lui. Donc là, si j'avais pas totalement réalisé avant ça, là, j'ai vraiment eu le déclic.
Donc vous vous êtes senti très mal à l'aise et vous avez commencé à vous dire qu'il fallait vous protéger de quelqu'un comme ça.
Pas tout de suite. Enfin, j'étais assez choquée. Mais il avait déjà quand même une grosse emprise psychologique sur moi. Donc il faut aussi préciser que, parallèlement à tout ça, également de temps en temps, donc il me précisait que c'était un ancien parachutiste, qu'il avait des armes chez lui. Il m'expliquait que si quelqu'un le trahissait, il serait capable de le faire tuer. Et dans la même conversation, il me disait que si moi je devais raconter ce qui se passait entre nous, parce que c'est ce qu'il appelait se passer entre nous, même si c'était ce qui me faisait subir uniquement. Donc, dans la même conversation, il me faisait comprendre que si moi je racontais ça, il le prendrait comme une trahison. Donc, il y a plusieurs choses qui ont fait que j'étais comme anesthésiée, j'arrivais pas à me défendre suffisamment contre lui.
Donc, au départ, vous avez gardé tout ça pour vous ?
J'ai commencé à en parler à mon compagnon au bout de quelques mois, mais de toute façon, même à ce moment-là, je ne racontais pas ce que je subissais dans les réelles proportions. J'avais toujours tendance à minimiser. Bon, il y a une certaine honte quelque part, et puis j'avais du mal à reconnaître que j'étais une victime, que je contrôlais rien, que... Et en plus, bon, comme mon compagnon ne réagissait pas vraiment non plus, ça ne m'a pas aidée non plus à vraiment comprendre que c'était très dangereux et qu'il fallait que je réagisse au plus vite.
Et donc, il continuait à vous faire des avances et à émettre des menaces ?
Les derniers mois, il m'arrivait de rester dans son bureau pendant 5 heures, par exemple. 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Il me parlait de lui, il me faisait des propositions. Et voilà, j'essayais de... Enfin, je lui ai toujours dit non. Il n'y avait pas d'ambiguïté là-dessus. Et ensuite, il a commencé à m'envoyer des mails... pornographique sur ma boîte mail professionnelle. Et donc j'avais beau lui dire que je trouvais ça dégueulasse, que je voulais qu'il arrête, que j'en pouvais plus, il continuait. Et je me rends compte a posteriori que c'est limite, peut-être le fait que je ne veuille pas qu'il attirait le plus, quoi. C'est dingue.
Vos collègues n'avaient l'air de se douter de rien ?
Mes collègues savaient au moins... qu'il était tout le temps derrière mon dos, il le savait, je veux dire, il ne pouvait pas l'ignorer, qu'il n'arrêtait pas de m'appeler, enfin, des fois, il sifflait même pour que j'aille dans son bureau, ça m'arrivait régulièrement de soupirer ou d'avoir la mine déconfite quand il m'appelait dans son bureau, et je croisais des fois les regards de mes collègues, plein de sollicitude pour moi, parce qu'ils savaient que j'allais en avoir pour des heures, donc non, ils savaient au moins que le mot harcèlement, ça n'aurait peut-être pas traversé l'esprit, mais en tout cas, ils savaient qu'il se passait quelque chose qui sortait du cadre professionnel et que lui ne se comportait pas comme un chef devait se comporter envers moi. Ça, je sais qu'il ne pouvait pas l'ignorer.
Mais ils n'ont rien fait, rien dit.
Non seulement ils n'ont rien fait, mais a posteriori, ils ont témoigné contre moi. Donc, non, ils n'ont strictement rien fait. Non.
Alors, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit, là, je ne vais jamais m'en sortir toute seule et il faut que j'agisse ?
En fait, malheureusement, ce n'est pas moi. C'est entre guillemets grâce à lui. Parce qu'un jour, en fait... on a eu une divergence au niveau professionnel. Sauf que moi, étant donné ce que je vivais, j'arrivais à un moment où j'arrivais plus. Et donc, effectivement, j'ai dû lui manquer de respect. Je crois que je l'ai insulté. Et il a exigé que je m'excuse. Ça devenait trop énorme. Je me dis, alors, il me fait subir tout ça. Et maintenant, il joue les chefs qui auraient une subalterne, qui serait insubordonnée, alors que ça allait bien au-delà de ça et que ma réponse vulgaire et violente était complètement légitime par rapport à ce qu'il me faisait. Et donc, ce jour-là, donc... J'étais convoquée dans son bureau avec mon DGA. J'ai pas voulu m'excuser. J'ai commencé à dire devant mon DGA qu'il tenait des propos racistes. J'ai juste dit ça dans un premier temps. Et en fait, il a commencé à faire une espèce de crise en fait, de nerfs. Il a hurlé. Il a dit à mon DGA, si c'est comme ça, je me casse. Vous avez plus de chef de la police municipale. En gros, il a stressé. Il s'est senti au pied du mur. Donc voilà, il a perdu son sang-froid. Et mon DGA m'a ordonné de m'excuser... Et donc là, j'ai dit, écoutez, je le pense pas du tout, j'ai pas à m'excuser, mais puisque vous êtes les chefs et que c'est la suprématie hiérarchique qui prône, écoutez, je m'excuse. Mais c'est vraiment le fait de devoir m'excuser devant lui, ça peut paraître symbolique, mais voilà, ça a sûrement déclenché quelque chose qui a fait que je savais qu'à partir de ce moment-là, c'était fini, quoi. Enfin, j'allais tout faire pour que ça finisse.
Jessica a été arrêtée 18 mois pour dépression. Elle a même dû être internée en hôpital psychiatrique. Aujourd'hui, elle a remonté la pente. Elle travaille à nouveau, mais ses plaintes devant le tribunal administratif ont été classées sans suite. Et sa plainte au pénal fait référence à un délit qui n'existe plus.
Maud Beckers, vous êtes l'avocate de Jessica que l'on vient d'entendre. Oui. Alors concrètement, quelles vont être les conséquences de l'abrogation de la loi pour votre cliente ?
Écoutez, le dossier de ma cliente est encore en cours d'instruction, donc il y a un juge d'instruction qui est saisi de ce dossier et nous espérons fortement que le juge d'instruction pourra requalifier les faits de harcèlement sous une autre qualification puisqu'il en a l'obligation et qu'il a été incité, enfin les juges sont incités, les procureurs sont incités à le faire par une circulaire de la chancellerie du 10 mai 2012 qui incite à requalifier sous d'autres délits potentiels. Et là, en l'occurrence, il se trouve que ma cliente, ce qu'elle a subi peut également être qualifié de violence volontaire ayant entraîné une ITT depuis une interruption de travail de plus de 8 jours, puisque comme vous l'avez rappelé, elle a été arrêtée pendant plus d'un an et demi, que la commission médicale qui s'est plongée sur son cas a même dit que son arrêt médical était lié au harcèlement. Donc il y a bien un lien de causalité entre son interruption de travail et le harcèlement dont elle a été victime, et tout cela fait par quelqu'un qui avait l'autorité sur elle. Donc on est sur un autre délit qui peut être poursuivi, et on espère fortement que le juge d'instruction le fasse. Mais malheureusement, ce que l'on peut constater sur les délits qui sont actuellement poursuivis, c'est que pour l'instant, nous n'avons eu aucune requalification sur les autres dossiers.
Je le disais en début de magazine, une nouvelle loi va être élaborée. Elle doit définir plus précisément ce que recouvre le harcèlement sexuel. Alors, comment définir ce qu'est le harcèlement sexuel? C'est ce que vous avez tenté de faire, Aurélie.
Et j'ai sollicité le sociologue Michel Bozon. Il est directeur de recherche à l'INED. Il travaille sur la sexualité et le genre. Et plutôt que de harcèlement sexuel, Michel Bozon préfère parler de harcèlement sexiste.
Il s'agit d'attitudes, de pratiques qui consistent à dévaloriser des personnes, à les mettre dans des situations inconfortables et dominées. Et ces personnes sont quasi exclusivement des femmes ou alors des hommes qu'on se met à traiter comme des femmes. On pourrait parler dans ce cas-là plutôt d'un harcèlement de genre. Le harcèlement le plus banal, le plus intériorisé que connaissent tous les hommes, c'est de se faire traiter de pédé, c'est-à-dire de se faire dire qu'il y a en toi du féminin, donc quelque chose d'un peu méprisable. L'aspect de sexualité n'est parfois qu'un aspect totalement secondaire. Il ne s'agit pas principalement d'assouvir ce qu'on appellerait des pulsions sexuelles, bon, mais il s'agit de mettre des personnes à une place inférieure par son comportement, par ses gestes, par ses propos.
Et en quoi est-ce que ce comportement est plus masculin que féminin ?
Dans une société dominée par les hommes et où, dans le lieu de travail, ce sont les hommes qui ont les postes de pouvoir, de responsabilité principalement, ce sont eux qui peuvent faire les règles du milieu de travail. Et les comportements de harcèlement peuvent être des comportements de supérieurs hiérarchiques, mais également des comportements de collègues ou de pairs. Et dans ce cas-là, c'est l'expression d'une concurrence, mais qui se règle dans ce langage de la sexualité, des qualités des hommes et des femmes, et des qualités inférieures des femmes, puisque les femmes, c'est des corps, c'est des objets sexuels, et on sait bien qu'elles ne peuvent réussir qu'à travers l'usage de leur corps.
Pour prolonger la réflexion de Michel Bozon, voici le témoignage de Sophie. Cette jolie femme, sportive, avait trouvé un emploi dans une salle de sport. Elle n'a pas été harcelée par un supérieur hiérarchique ni par un collègue, mais par des hommes qui fréquentaient l'établissement.
Moi, j'avais pas conscience du tout, hein, déjà que ça s'appelait harcèlement sexuel. Hein, donc, c'est pas du tout comme ça que je l'aurais intitulé. Je me faisais beaucoup embêter par des hommes. Donc, il y avait des blagues salaces, il y avait... On m'embêtait sur ma façon de m'habiller, sur ma façon de me maquiller, sur mes cheveux, sur... Je faisais aussi attention quand j'enlevais une épaisseur, donc un sweat, parce que j'avais des réflexions derrière, qui, en rigolant bien sûr à chaque fois, hein, qui disaient « Ah, bah, Sophie, elle commence en striptease !» Dès que je démontrais un exercice de sport, et ben voilà, on parlait de position sexuelle. Une fois, il y en a un qui m'a dit qu'on voyait ma cellulite à travers mon pantalon, et ça devant tout le monde. Après, il y en a un qui m'a demandé, donc à travers toute la salle, « Alors Sophie, t'aimes bien les grosses bites noires ?» Donc tout le monde a entendu et personne n'a rien dit, quoi. Et il y avait des cancans, des rumeurs aussi. Ça, j'ai eu pas mal de rumeurs sur mon compte. Dès que je parlais avec un client, on me disait que je couchais avec. Voilà. Et ça tue, quoi. Ça tue à l'intérieur.
Au début, votre réaction, qu'est-ce que ça a été ?
Au début, je le prenais très mal. J'ai entendu dire dès le début où j'ai travaillé là-bas que j'étais dégueulasse, physiquement. Donc, je me suis offusquée. Et puis après, j'en ai un petit peu parlé à des femmes, déjà, qui me disaient de laisser tomber et qu'il ne fallait pas que je les écoute. Donc, je faisais avec, quoi. Donc, tout en sachant ce qu'ils pensaient de moi. Donc ça me mettait mal à l'aise, mais je gardais quand même le sourire parce que je devais rester accueillante, donc je gardais le sourire. Donc au début, j'ai réagi comme ça, et puis au bout de 4 ans, j'ai plus tenu en fait. D'ailleurs, je me suis fait agresser verbalement, et mes employeurs ne m'ont pas soutenue, donc là j'ai pas pu continuer à travailler, je me suis mise à pleurer, j'ai pas pu retourner travailler.
Vous dites que vos employeurs ne vous ont pas soutenu, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas tenu compte de ce que vous disiez.
J'ai eu la sensation qu'ils ne me croyaient pas déjà, puisque les agresseurs qui m'ont violenté disaient que je mentais. Donc, ils ont préféré les croire parce que c'était plus simple, je pense. Et j'ai toujours entendu dire aussi que les salariés n'avaient pas leur mot à dire. Et le jour où j'ai dit quelque chose parce que je ne pouvais plus tenir, ils m'ont dit que j'avais qu'à changer d'emploi. Si j'étais pas assez forte pour tenir face à des gens comme ça, j'avais qu'à partir, quoi.
Voilà. Donc ça a été le congé maladie.
Alors le congé maladie a duré plusieurs mois. Après, les employeurs ont proposé une rupture conventionnelle que j'ai pas acceptée. Et le médecin du travail m'a mis en inaptitude pour ce travail-là. Parce que j'ai bien insisté, parce que c'était vraiment dans ce travail-là que je ne me voyais pas revenir. D'ailleurs, si je faisais le chemin en voiture pour aller dans cette direction, je pleurais, quoi. Donc vraiment, j'étais très marquée. Et donc après l'inaptitude, c'est le licenciement. Et après, j'ai mis mes employeurs au prud'homme.
Vous êtes allée au prud'homme, c'est-à-dire que c'est vis-à-vis de votre employeur que vous avez souhaité porter plainte et pas vis-à-vis des clients.
Oui, parce que j'estime que mes employeurs ne m'ont pas défendue. Ils savaient ce qui se passait et ils faisaient rien. Et en fait, quand moi je disais que j'aimais pas ce qu'on me disait, on me disait que moi j'étais faible et fragile, contrairement à mes collègues. Plus je me plaignais, plus j'étais considérée comme faible et fragile, et c'était un cercle vicieux, quoi. Donc après je me taisais, quoi. Je me suis de plus en plus effacée et je me réfugiais dans le bureau. Et en fait, normalement, l'employeur a un devoir de protection. Donc moi je leur en ai parlé, ils m'ont pas suivi, ils ont vu que je m'isolais, ils ont rien dit, et au moment où je leur ai demandé de l'aide, ils m'ont dit que j'étais limite fautive, en fait. Donc moi j'en veux à mes employeurs, je trouve que c'est eux qui ont mal fait leur travail, et les adhérents, en fait, je les considère comme des enfants. Dans ma tête, c'est un peu ça, c'est des enfants qui n'ont pas été cadrés, on ne leur a pas mis de barrière, donc ils en ont profité. Je ne vais pas les excuser, hein, parce que eux, ils sont lamentables, mais voilà, c'est l'employeur qui aurait dû me protéger, quoi. Et j'ai perdu mon emploi à cause de l'employeur.
Vous continuez d'être accompagnée suite au traumatisme lié au harcèlement sexuel ?
Oui, par une psychothérapeute et par la VFT, justement. Donc on a un groupe de parole, on est à plusieurs et on s'écoute déjà les unes les autres et ça nous fait avancer. Voilà. Et ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul, en fait, à vivre ça. Et qu'en fait, on est victime. Parce qu'au départ, on ne le sait pas forcément, quoi. On se dit qu'effectivement, c'est notre faute, quoi.
Vous, aujourd'hui, vous vous sentez plus forte ?
Alors moi, j'ai retrouvé du travail, donc je me sens plus forte. Mais je ne suis pas sereine, quand même. Je fais attention à ce que je dis, à mon comportement, encore. Comme là-bas, en fait. Quand on entend autant d'hommes parler comme ça des femmes, on se dit qu'ils ont peut-être tous ça dans la tête, quoi. Du coup... J'espère que non. Mais voilà, je sais pas, j'ai pas la réponse encore.
Le harcèlement sexuel prend des formes multiples et il existe dans tous les milieux. Nous allons dans un instant évoquer le cas particulier de l'armée. Mais d'abord, je vous propose de faire une pause dans un café parisien avec Marion et Clara. Ces deux étudiantes font partie du CLASH, une association qui lutte contre le harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche. Et les cas les plus courants sont ceux de doctorantes confrontées à des directeurs de recherche entreprenants. Marion.
Je pense à une doctorante qui a été contrainte d'arrêter sa thèse justement parce que l'ambiance avec son directeur de thèse devenait trop lourde. Elle faisait face à des mains qui se baladaient en signe d'encouragement et de paternalisme quelque part. Des intrusions dans sa vie privée, toujours des sous-entendus sexuels, des sous-entendus provocateurs. Et un jour, son directeur de recherche donc veut lui faire la bise pour l'encourager avant un examen et cette bise atterrit sur sa bouche malencontreusement. Et donc là, voilà, elle a senti qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait. Et ça a vraiment... Elle n'avait plus envie de le revoir. Et donc forcément, quand on décide de ne plus revoir son directeur de thèse, quelque part, on fait une croix sur sa thèse parce qu'on sait que, voilà, il est très compliqué de soutenir sa thèse sans l'appui de son directeur. Cet exemple, ça montre bien que au travers des pratiques de harcèlement sexuel, on aboutit souvent à du décrochage scolaire, une interruption de carrière. Ça a des conséquences qui peuvent être extrêmement graves pour la victime.
La tentation des étudiantes, ça va plutôt être de renoncer que de se battre, d'essayer de faire reconnaître le harcèlement.
Oui, tout à fait. Pour différentes raisons. Déjà parce qu'effectivement, elles connaissent mal les recours qui sont possibles. Je veux dire, il y a un tabou autour de cette question qui fait qu'elles sont en manque d'informations. Donc c'est pour ça que le CLASH essaye de mettre en place des campagnes de sensibilisation, d'information pour leur dire qu'il existe des recours. Et aussi, le fait est que ces recours sont peu efficaces.
Dans l'enseignement supérieur, il existe une juridiction qui est interne, qui s'appelle commission ou section disciplinaire, et donc qui doit juger des différents problèmes qui se posent dans l'enseignement supérieur. Ça peut être des cas de tricherie aux examens, ça peut être aussi des cas de harcèlement, et notamment de harcèlement sexuel. Mais bon, cette section disciplinaire, elle est très rarement saisie par les étudiantes ou par les victimes de manière générale, dans la mesure où... elles ne peuvent pas la saisir directement, il faut qu'elles écrivent une lettre au président de l'université qui va décider, lui, si la plainte est recevable ou non et s'il va ou non convoquer cette section disciplinaire. Ensuite, la composition de la section est vraiment défavorable aux étudiantes dans la mesure où l'enseignant est seulement jugé par ses pairs, c'est-à-dire par ses collègues. A priori, on pense qu'il risque de ne pas être sanctionné ou alors seulement un blâme ou une sanction vraiment minimale.
Avec la loi d'autonomie des universités, les universités sont de plus en plus en concurrence entre elles, donc il y a des enjeux d'image et par conséquent, convoquer une section disciplinaire, c'est dévaloriser l'image de son université parce que c'est reconnaître qu'en son sein, il y a des problèmes de harcèlement sexuel et donc les présidents et les présidentes sont par conséquent réticents à convoquer ces sections et à donner suite à ces questions de harcèlement sexuel.
Jacques Bessy, président de l'association Défense des droits des militaires. Alors écoutez, c'est l'histoire d'une jeune engagée dans la marine nationale qui a le grade de matelot et qui est engagée pour être secrétaire et agent d'accueil au centre de recrutement de Metz. Et très rapidement, son chef de service lui fait des avances qui sont complètement déplacées. Il essaye de l'installer dans son bureau. Il lui demande de venir faire des séances de sport le matin avant l'ouverture du bureau. Il se met derrière elle en lui disant qu'il va profiter du spectacle, que si elle ne court pas assez vite, il lui tapera sur les fesses, ce qu'il l'aurait fait. Par ailleurs, tout au long des mois qui suivent, il a des allusions ou des plaisanteries très douteuses à caractère sexuel. Tant et si bien que cette jeune femme ne sait pas comment se sortir de cette situation. À la fin de l'année, finalement, elle retourne voir Pôle emploi qui l'avait orientée vers ce travail. Et Pôle emploi la dirige vers l'inspection du travail. Et malheureusement, elle tombe sur un inspecteur du travail qui est un ancien militaire et qui connaît son supérieur. Et donc le lendemain matin, le supérieur qui devait être en congé l'attend. Et puis ses ennuis commencent. Il essaye de l'obliger à démissionner de son poste. Elle refuse, bien sûr. Elle est placée rapidement en arrêt maladie parce qu'elle est très choquée de cette situation. Elle souffre et donc elle ne peut plus continuer à travailler. Elle contacte l'Association de défense des droits des militaires. On l'aide initialement à rédiger une plainte en direction du procureur de la République de Metz. 3 mois après sa plainte au procureur de la République, il ne s'était rien passé. Donc elle a dû prendre un avocat qui s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction de Metz. Cette affaire, je dirais, est assez symbolique de ce qui se passe dans les armées. Pour le secteur privé, il existe le Code du travail, qui, bien sûr, interdit le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. Pour les fonctionnaires, il y a une loi de 83 qui également interdit le harcèlement sexuel et le harcèlement moral. Et malheureusement, pour les militaires, il n'y a rien. Nous, ce que nous souhaiterions, c'est qu'à l'occasion de la réécriture de la définition du délit de harcèlement sexuel et éventuellement du délit de harcèlement moral s'il venait à être supprimé, on insère dans le code de la défense des articles qui interdisent le harcèlement moral et le harcèlement sexuel, articles inspirés, adaptés de la loi de 83 sur les fonctionnaires. Le fait que ces articles soient dans le code de la défense, ça va obliger le commandement, la hiérarchie, à réfléchir sur la prévention de ce délit, même à réfléchir sur un guide des relations hommes-femmes au sein des armées. Et à ce que je sais, ce guide des bonnes manières n'existe pas. Et puis, ça va obliger l'armée à définir des procédures d'enquête et de répression dans l'hypothèse où de tels délits sont dénoncés et signalés. Dans l'affaire de Metz, cette jeune femme a été convoquée à l'état-major de la marine à Paris et elle a eu affaire à un certain nombre de personnes qui l'ont dissuadée de continuer. Elle a même vu un psychologue qui lui a donné des conseils juridiques en lui disant « ça ne, votre affaire ne tiendra pas ». Donc manifestement, la marine n'avait pas réfléchi à la manière de traiter ce genre de problème. Sinon, il ne serait pas engagés dans de telles démarches qui sont un peu surprenantes.
L'armée compte aujourd'hui 15% de femmes et trois quarts d'entre elles sont contractuelles, donc en situation de précarité.
Denis Salas, je rappelle que vous êtes magistrat. On vient d'entendre les difficultés rencontrées par les victimes pour se faire entendre dans l'enseignement supérieur comme dans l'armée. Ça veut dire que selon le lieu où l'on travaille, on n'a pas les mêmes droits ?
Oui, on peut dire ça comme ça. J'entends aussi dans ce qu'on vient d'entendre dans les exemples qui nous ont été soumis, deux choses assez différentes, mais liées entre elles. D'une part, une relation d'emprise exercée par un individu en position le plus souvent hiérarchique à l'égard d'une victime, avec une sorte de jouissance manifeste dans ce qu'on a entendu. La dimension sexuelle existe, mais elle n'est pas forcément au premier plan. On jouit quelque part de sentir la personne à sa merci. Ça, je l'ai assez nettement entendu dans plusieurs exemples. Et puis la deuxième chose, c'est quand la victime cherche des appuis à l'extérieur, quand elle cherche des tiers, elle ne les trouve pas. Et ça, ça m'a beaucoup frappé dans l'exemple de la jeune militaire tout à l'heure qui trouve un inspecteur du travail qui connaît son employeur, ou dans l'exemple aussi précédent, il y a cette idée que le piège se referme et que quand elle cherche à trouver une issue, elle ne trouve personne et se crée autour de la victime ce que je trouve très bien. La directive européenne appelle un environnement intimidant et hostile. Et alors, je suggère une piste aux législateurs qui travaillent là-dessus. Je trouve que c'est intéressant de reprendre cette définition-là, parce que la notion d'environnement hostile, intimidant, dégradant et humiliant caractérise assez bien, je trouve, la situation de la personne qui est harcelée sexuellement.
Alors, avant de discuter des contours de cette nouvelle loi, vous allez nous présenter, Aurélie, le point de vue de l'AVFT.
Oui, l'Association contre les violences faites aux femmes au travail est en première ligne de ce combat pour obtenir une nouvelle loi plus précise et cohérente. Pour elle, le texte qui a été abrogé reflétait le droit patriarcal construit par les hommes à leur profit. Et pour le remplacer, elle propose justement un texte assez proche de celui déjà voté par le Parlement européen. Le harcèlement sexuel serait donc, je cite, « tout propos, acte ou comportement non désiré, verbal ou non verbal, à connotation sexuelle, qui porte atteinte aux droits et à la dignité ou qui crée un environnement intimidant, hostile, humiliant ou offensant ».
Alors revoir une loi, c'est une chose, l'appliquer, c'en est une autre.
Oui, justement, Marilyn Baldeck, déléguée générale de l'AVFT, cite en exemple une affaire d'agression sexuelle dans un hôtel parisien. Une affaire qui a été jugée de manière satisfaisante à ses yeux, ce qui est rare.
Alors là, les agressions sexuelles se sont passées dans le huis clos d'une chambre d'hôtel. Donc, a priori, l'idée qu'on pourrait s'en faire, c'est que c'est absolument impossible de faire la preuve. Et là, les juges ont décliné une technique très intéressante, qui est la technique du faisceau d'indices concordants, où ils ont pris la parole de la victime et ils ont essayé de voir tout ce qui permettait de la corroborer. Dans les déclarations de ses collègues de travail, par exemple, ils n'ont pas vu ce qu'il se passait, mais beaucoup disent qu'il avait un comportement ouvertement sexiste, machiste, déplacé avec les femmes. Certaines collègues dénoncent aussi des attouchements complètement déplacés. Donc du coup, quand elle vient dire ce qu'il se passait dans cette chambre
d'hôtel, ça prend sens. Les arrêts maladie, le fait qu'elle n'a jamais varié, qu'elle a été extrêmement nuancée dans sa façon de raconter les choses, le fait que immédiatement après, elle s'est confiée à des collègues, à des parents, en racontant précisément ce qui s'est passé. Et quand elle a été entendue par les services de police, elle a redit exactement la même chose. Et les juges ont considéré que ça crédibilisait sa parole. Lui, par ailleurs, n'a pas nié tous les faits qui lui étaient reprochés, mais en prétendant qu'elle était d'accord pour ça, parce que dans nos dossiers, bien souvent, on n'a pas tellement de problèmes pour prouver la matérialité de ce qui est dénoncé. Mais soit les mises en cause vont dire qu'elle y était un peu pour quelque chose, qu'il y a eu un malentendu, ou qu'eux ont vraiment pensé qu'elle était d'accord, etc., etc. Et là, en l'espèce, il est incapable d'expliquer au juge sur quoi il pouvait se baser pour prétendre qu'elle était d'accord. On arrive donc en fin de jugement avec la cour d'appel de Paris donc dit qu'elle est convaincue que le prévenu, bien qu'il s'en défende, s'est rendu coupable des faits qui lui sont reprochés, les agressions sexuelles ayant consisté en des caresses sur le torse et les fesses, des baisers près de la bouche et sur le cou, le fait qu'il se soit allongé sur elle, tenté de l'embrasser, passer ses mains sous la couette dans laquelle elle s'était enroulée pour se protéger, alors qu'il était vêtu de son seul caleçon, ses atteintes sexuelles ayant été commises avec contrainte, surprise, dans un contexte professionnel et contre la volonté de la victime, alors qu'elle avait montré sans ambiguïté qu'elle ne souhaitait pas avoir de relation à connotation sexuelle avec lui. Voilà. On a vraiment l'exemple de ce que la justice devrait toujours faire. Malheureusement, ça se passe rarement comme ça. Quand les femmes dénoncent des attouchements à caractère sexuel dans les relations de travail, du temps où on avait une loi sur le harcèlement sexuel, elle avait pour fonction de les déqualifier, de minimiser ces violences qui auraient dû être qualifiées d'agression sexuelle. Et dans au moins deux dossiers que nous avons à l'association, ce sont des viols qui ont été déqualifiés en harcèlement sexuel.
Maud Bakers, est-ce que vous avez constaté cet effet pervers de la loi sur le harcèlement sexuel, c'est-à-dire une déqualification de fait ?
Oui, on l'a constaté, je dirais pas systématiquement, mais très souvent dans nos dossiers. Et je dois dire à cet égard que sur les 50 ou 80 condamnations qu'il y a par an motivées sur le harcèlement sexuel, en fait, ce sont toutes des affaires d'agression sexuelle, souvent, qui sont requalifiées. C'est-à-dire qu'on a très peu de dossiers, on en a d'ailleurs pas, je crois, la VFT, moi je travaille essentiellement avec la VFT, qui sont des dossiers d'harcèlement sexuel qui ont donné lieu à des condamnations devant le tribunal correctionnel. Donc oui, c'était d'ailleurs pour cela que les associations féministes dont la VFT fait partie demandaient depuis plus de 10 ans aux législateurs, au gouvernement, de nouveau légiférer sur cette loi, parce que tout le monde disait, surtout depuis 2008 et qu'il y avait la question prioritaire de constitutionnalité, attention, il va y avoir un harceleur qui va saisir le Conseil constitutionnel et ça va arriver. Et c'est arrivé. Et l'État a une responsabilité cette abrogation et de la situation dans laquelle sont les victimes, puisque ça fait 10 ans qu'on l'avertit qu'il va y avoir des difficultés.
Donc,
Denis Salas, est-ce que les magistrats ont du mal avec cette notion de harcèlement sexuel ?
Ils ont du mal du fait que cette notion n'est pas vraiment définie par le législateur. Donc, quand on évoque la notion de vide juridique, c'est partiellement vrai, parce qu'il y a quand même un rôle interprétatif. Le juge va, dans le silence de la loi, interpréter, on l'a entendu tout à l'heure dans le cas qu'on a évoqué, réunir des témoignages, entendre la victime, etc., pour essayer de trouver une qualification qui tienne. Donc, c'est vrai qu'il y a une difficulté pour cerner cette notion qui est due au silence de la loi, mais qui est comblée par l'interprétation. Le problème est que dans le cas qui a été soumis au Conseil constitutionnel, cette interprétation a été effectivement soumise à sa censure et la loi a été abrogée, ce qui a remis complètement le débat sur la table. Et maintenant, il faut reprendre à zéro le problème et reprendre les qualifications en essayant d'harmoniser l'ensemble des textes sur le harcèlement sexuel qui existe actuellement avec les directives européennes et de trouver, ça va être ça qui va être difficile, de trouver un concept juridique qui permette à la victime d'être reconnue dans ce qu'elle a subi. La notion de faveur sexuelle, je ne suis pas sûr qu'elle corresponde.
Il faut qu'elle soit supprimée.
Pas sûr, ouais, vous avez raison, je ne suis pas sûr qu'elle corresponde. Faveur sexuelle, ça fleure un peu le 19e siècle. Je ne vois pas très bien le sens que ça a aujourd'hui. C'est un concept fourre-tout qui ne définit pas grand-chose. Donc il faut repenser cette question de faveur sexuelle, entre guillemets, trouver le bon concept où la victime se retrouve en quelque sorte, se reconnaît en quelque sorte dans cette infraction, mais qui aussi permet d'être suffisamment précise pour que l'auteur, au fond, soit, ait en face de lui une infraction qui lui permette de se défendre.
Ça veut dire que le harcèlement sexuel n'a pas forcément un but sexuel ?
Il peut avoir une connotation sexuelle, mais je pense que dans beaucoup de cas, mais vous pouvez répondre beaucoup mieux que moi, il y a quand même des cas où il y a une violence.
En effet, la plupart des dossiers de harcèlement sexuel sont des dossiers qui ont pour objectif de la part du harceleur de créer plutôt une intimidation, ouais, puisqu'on l'a vu, dans 80% des cas de harcèlement sexuel, cela se passe au travail par un supérieur hiérarchique. Et donc on est dans des situations d'intimidation, de subordination, ce qui... justement place les victimes dans une situation où elles ont des difficultés à dire non, puisqu'elles risquent souvent de perdre leur emploi suite au fait de dévoiler ces faits de harcèlement sexuel. Et donc, en effet, le harcèlement sexuel aujourd'hui correspond plus à des propos qui sont portés par un supérieur hiérarchique, des actes qui ont pour objet ou pour effet de créer un climat complètement désastreux, humiliant et autour de remarques à connotation sexuelle. Et ce problème de la contrepartie d'obtenir des faveurs sexuelles doit être supprimé du texte parce que ça ne correspond pas en règle générale au cas que nous avons, mais surtout parce que c'est une preuve impossible à apporter. On ne peut pas matériellement apporter la preuve qu'un harceleur vous harcèle, vous rend la vie insupportable, vous humilie en permanence parce qu'il a l'intention d'avoir des relations sexuelles avec vous. Autant dans les dossiers, on a les mails, on a des SMS qui sont totalement évidents sur la volonté d'humilier avec ses connotations sexuelles, autant l'employeur, puisque il s'agit souvent il s'agit souvent d'employeurs, n'envoie pas une lettre avec accusé réception pour dire tout ça est dans le but de coucher avec vous. Donc on est toujours dans des situations de dossier où cela est...
Je pense quand même, par rapport à ces difficultés de preuve, le rôle de l'entourage, si vous voulez. Quand on entend, dans l'exemple que vous donnez tout à l'heure, quelqu'un qui reste 5 heures dans un bureau avec la victime et que l'entourage fait semblant de ne pas voir... Je trouve que là, il y a un problème de témoignage et d'honnêteté du témoignage, de courage de témoigner. Alors, c'est vrai que le problème, c'est que ils sont dans un cas de subordination et que c'est difficile dans ce cadre-là d'affronter l'autorité de son employeur. Mais je pense que la justice les place en position de témoin et peut déplacer ce cadre hiérarchique. Vous êtes dans un cadre judiciaire et là, on peut vous entendre dans ce cadre-là. Je pense que là, il y a un problème de courage pour sortir la victime de l'isolement dans lequel son harceleur l'enferme.
Et de prévention dans l'entreprise aussi ?
Oui, bien évidemment.
Ça me semble absolument fondamental. Je ne pense pas que la loi pénale à elle seule
suffira
pour nous débarrasser, entre guillemets, du harcèlement sexuel.
Mais si elle n'existe pas,
elle est un point d'appui, je suis d'accord avec vous, elle est un point d'appui, effectivement, indispensable. Vous avez dit 80 dossiers, mais combien de réalités du harcèlement, infiniment plus.
Bien évidemment.
Voilà, donc il y a un chiffre noir qu'on ne peut pas évaluer, mais il faut aussi s'attaquer à cela. La loi est un point d'appui, il faut la réformer, elle doit susciter un débat, un peu celui comme celui que nous avons aujourd'hui, pour faire prendre conscience à ces témoins peut-être hésitants, quand ils auront vu un certain nombre de choses, d'oser témoigner pour libérer la victime de cet environnement hostile dans lequel elle est placée par le harceleur.
Et donc, il faudrait que les entreprises se sentent un peu plus concernées.
Moi, je pense que c'est très important.
Il faudrait que les entreprises se sentent beaucoup plus concernées.
Les collectifs,
plus un peu plus. C'est-à-dire que les entreprises ont une obligation d'inscrire dans leur règlement intérieur des dispositions qui ont pour but de lutter contre le harcèlement sexuel. On se rend compte systématiquement, puisque je fais beaucoup de conseils de prud'homme, que lorsqu'on demande la communication de ce règlement intérieur, il ne comporte pas ces dispositions sur la prévention du harcèlement sexuel ou il n'existe pas. Et la meilleure façon, je pense, aujourd'hui de lutter contre le harcèlement sexuel, c'est de, quand on est victime, d'agir sur les deux facettes qui sont offertes, quand on relève du droit privé, c'est-à-dire des entreprises privées, c'est de attaquer le harceleur personne physique, celui qui a commis les faits devant le tribunal correctionnel, mais c'est également de poursuivre l'employeur qui et a une obligation de sécurité qui est de résultat sur la santé de ses salariés devant le conseil de prud'homme. Parce que plus les employeurs seront condamnés à verser des dommages et intérêts sur ce fondement, plus ils seront incités à faire de la prévention au sein des entreprises.
Comment distinguer, je vais peut-être vous choquer, mais la plaisanterie grivoise, la drague un peu lourde du harcèlement sexuel ? Parce que parfois, la nuance est subtile.
Hein. J'ajoute au propos d'Antoine, parce qu'on n'a pas entendu les hommes, mais sur Internet, j'ai lu un certain nombre de témoignages d'hommes qui se disaient victimes de manipulation, qui disaient que parfois, c'était leur employeur qui voulait se débarrasser d'eux et qu'ils avaient trouvé ce subterfuge en s'appuyant sur des stagiaires pour nuire à leur réputation se débarrasser d'eux.
Là, c'est la stratégie qui consiste à dénoncer en quelque sorte l'employeur en pointant telle ou telle pratique qui semble condamnable. C'est pas totalement choquant. On peut dénoncer, c'est dans la loi, telle ou telle infraction. C'est même assez courageux dans certains cas parce qu'il faut aussi oser le faire et affronter son employeur. Donc ça me paraît au contraire une issue possible, même si elle peut avoir des arrière-pensées, comme vous le dites, peut-être de règlement de compte dans l'entreprise.
Est-ce que le harcèlement sexuel, dans l'ancienne loi, était suffisamment puni, selon vous ?
Vous voulez dire en matière de peine, est-ce qu'il était suffisamment puni ? Écoutez, moi, je suis pas je suis pas complètement folle des lois pénales qui répriment. Je ne pense pas que plus on punira un individu, mieux sera comprise le délit et mieux il sera prévenu. Je pense que on peut aller au-delà.
La comparution.
On peut aller au-delà, mais c'est pas ça le nœud du problème. Le nœud du problème, c'est qu'il faut une définition qui soit extrêmement précise pour que les employeurs ou les harceleurs comprennent que c'est puni et que ce, quel que soit le montant de l'amende à payer ou de la peine d'emprisonnement qui est encourue.
Je crois que c'est une question très importante. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est moins dans ces affaires-là. La peine qui compte, un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, autant que je me souvienne, c'est moins la peine qui compte que la qualification, la nomination de l'acte, l'acte de nommer et de comparaître pour avoir commis tel acte devant un juge. Et c'est ça qui fait qu'il y a une vertu d'exemplarité, qu'il y a une vertu aussi pour l'auteur de mise en confrontation avec son acte dans une audience publique devant des tiers. Et je trouve que en soi, cette comparution est une forme de peine.
Si on est dans le symbole.
On est dans une forme d'audience symbolique parce qu'elle signifie à la face de tous ce que la loi veut punir à travers cette comparution, cette confrontation. Et je trouve qu'en tant que telle, cette mise en scène symbolique est un acte de réprobation collective, publique, d'un acte qui est mis en scène par la justice. Et c'est ce point-là que me semblent attendre beaucoup les victimes.
Oui, les victimes, en règle générale, ce qu'elles veulent, c'est un procès et la reconnaissance des faits avec cette culpabilité, avec ce délit prononcé. Mais honnêtement, moi, dans mes clientes, je n'ai jamais vu une cliente qui partait dans cette procédure dans le but d'obtenir un emprisonnement de son harceleur. C'était vraiment la reconnaissance.
C'est pour ça que je parle de
la
reconnaissance.
Évidemment.
Et on retrouve le même problème avec le harcèlement sexuel qu'on a eu avec le viol dans les années 80, où les victimes voulaient absolument une reconnaissance par un mot, le viol, avec une définition qui permette de mettre des mots sur leur souffrance et que ces mots deviennent des accusations contre leurs auteurs. Ce que finalement on a pu obtenir grâce à une vote d'une loi qui sera peut-être du même type que celle qui sera votée prochainement pour le harcèlement sexuel.
Par contre, ce que l'on peut dire, c'est qu'on peut voir comment on apprécie un délit ou un autre par rapport à un autre en fonction des peines d'emprisonnement qui sont visées dans le code. Et il faut savoir que c'est vrai qu'aujourd'hui, le harcèlement sexuel, avec les conséquences désastreuses ce qu'elle a sur la santé des victimes est moins puni qu'un vol de portable qui est puni de 3 ans d'emprisonnement. Donc voilà, on peut juste dire que l'on peut en déduire ce qu'on estime être important ou non aux yeux d'une société.
Et est-ce que vous estimez que les magistrats, les avocats devraient être mieux formés à ces questions ? Je pense aussi aux policiers qui enregistrent les plaintes et qui sont parfois assez réticents à le faire.
En quelques mots,
oui, je pense qu'il faut faire un effort de formation. Beaucoup a été fait pour l'audition des victimes, notamment enfants, mineurs. Beaucoup a été fait du côté de la police aussi pour se former à l'audition de ces victimes. Donc il faut continuer cet effort-là et peut-être sensibiliser davantage les parquets, la police et évidemment les juges de la nécessité d'aller jusqu'au fond d'une investigation et de ne pas se contenter d'une enquête trop rapide qui ne permettrait pas de creuser vraiment le sens de cette infraction.
Merci à vous. Maud Becker, c'est Denis Salas. Un mot pour terminer. Sachez que depuis quelques jours, un numéro vert a été mis à disposition des victimes par les hôpitaux de Paris. Il s'agit du 0800 00 46 41. Harcèlement sexuel, un délit sans loi. Magazine signé Aurélie Kiefer, réalisé par Anne Fanny Bro, à retrouver sur franceculture.fr avec de nombreux bonus ainsi que des liens à la technique Bruno Gagnère-Fontani.